Le débat du jour, Jean-Baptiste Le Tondeur.
Bonsoir à tous. Il a suffi la semaine dernière qu'un père de famille se hisse en haut d'une grue à Nantes pour que les médias, les politiques aussi, s'intéressent à une réalité qui en France implique 300 foyers par jour, 110 000 par an. Le divorce concerne aujourd'hui un couple sur trois, un homme, une femme qui se séparent. Là semble s'arrêter l'égalité, car dès qu'il s'agit des enfants, eh bien c'est un rapport de force qui s'engage. Dans les trois quarts des cas, c'est la mère qui en a la garde. C'est justement ce qu'a voulu dénoncer ce père de famille la semaine dernière à Nantes. Alors la justice est-elle sexiste? Plus exactement, serait-elle hostile aux hommes? La question est d'autant plus d'actualité qu'au-delà des divorces, une autre polémique s'engage. Elle concerne cette fois les paternités imposées. C'est le titre de votre livre, Marie Plard. Bonsoir.
Bonsoir.
Paternités imposées, un sujet tabou aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alors vous êtes avocate féministe aussi, et c'est important de le signaler car votre propos n'est pas de dresser les femmes contre les hommes ou vice-versa.
Tout à fait. J'avais effectivement très peur, lorsque j'ai choisi d'écrire ce livre, d'être récupérée et de monter les hommes contre les femmes, alors que toute ma vie de femme et de professionnelle et d'avocat, j'ai au contraire essayé de nous réconcilier et de faire en sorte que nous soyons tous égaux avec les mêmes droits. C'est quelque chose que je connais en tant qu'avocat. Mais il m'est apparu, il y a quelques années déjà, qu'au niveau de la conception de l'enfant, du choix de l'enfant, nous n'avions pas, absolument pas les mêmes droits, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'écrire ce livre au travers d'histoires pour permettre aux uns et aux autres de comprendre ce que je voulais dire par cette paternité imposée.
À six histoires au total. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très paradoxal quand on lit votre livre. D'un côté, quand on parle de divorce, la paternité est parfois niée par la justice, et de l'autre, cette même justice impose cette même paternité, y compris lorsque les hommes ne la veulent pas. C'est bien le propos de votre livre.
Oui, c'est vrai que ça peut sembler paradoxal, mais lorsqu'on se penche un peu plus sur la question, on comprend qu'en fait la justice, elle est souvent confrontée à des droits qui sont revendiqués de part et d'autre et qui viennent se heurter, s'entrechoquer, et elle doit arbitrer entre des demandes divergentes parfois.
Nous y reviendrons dans quelques minutes. Un père qui ne voulait pas l'être, c'est le cas de notre deuxième invité. Bonsoir Philippe Villot.
Oui, bonsoir.
Vous présidez les Malgré nous, association qui vient en aide à ces hommes à qui l'on a imposé la paternité.
Oui, tout à fait. Alors nous, notre but, c'est de rassembler, de fédérer ces hommes qui ont subi une paternité imposée, qui se retrouvent seuls devant la justice, devant des tests ADN, enfin voilà. Et donc, notre but, c'est de faire changer les mentalités et la loi pour accorder les mêmes droits que les femmes, par exemple, qui ont le droit à la déclaration de maternité sous X. Nous, on trouve que la meilleure réponse à la paternité imposée, ben, c'est justement de donner les mêmes droits qu'aux femmes aux hommes, c'est-à-dire la déclaration de paternité sous X. Je voudrais saluer Marie Plard, avec qui j'ai eu quelques contacts il y a quelques années, enfin, ou quelques mois, et bon, je suis en accord total avec ce qu'elle dit, et nous ne sommes pas une association féministe, hein, en opposition aux associations féministes, pas du tout. Nous voulons simplement avoir les mêmes droits que les femmes. Nous respectons les femmes qui se sont battues pour avoir ces droits, hein, dans les années 70, avec le traité des 343, rédigé par Simone de Beauvoir, et signé par toutes les femmes bien en vue de l'époque. Nous, on voudrait simplement avoir droit à l'avortement. Alors, ça fait rigoler tout le monde, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est avoir droit à des dispositions légales équivalentes, qui pour nous est la déclaration de paternité sous X. Voilà.
On va poursuivre le débat avec vous dans quelques minutes. Nous sommes aussi ce soir avec deux autres invités, Fabrice Mégias, président de l'association SOS Papa, qui devrait nous rejoindre en studio dans quelques secondes, je l'espère en tout cas. Et puis, en ligne avec nous, Carole Lapanouse, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez l'association SOS Les Mamans qui défend, elle, le droit des femmes, le droit des mères.
Bah, qui porte un contradictoire, hein, déjà, parce que ça fait 10 ans, effectivement, qu'on entend une seule voix. On nous parle beaucoup de coparentalité, et en fait, bizarrement, on ne s'est pas étonné que la voix des mères n'a jamais été présente dans le débat de la politique familiale. Effectivement, l'association SOS Les Papas est à l'UNAF. Elle est à l'origine de la loi de mars 2002 qui gère toutes les séparations aujourd'hui parentales. Et donc, ces 30 propositions qui ont été faites par cette association, qui ont été validées par le gouvernement Jospin à l'époque, Madame Ségolène Royal. Donc voilà, il y a juste un moment où effectivement, il faut avoir la possibilité de porter un contradictoire, tant dans les chiffres que dans les réalités que des femmes vivent à travers leur maternité dans les cas de séparation.
Alors justement, commençons par ces chiffres, ceux du divorce. 136 000 enfants concernés chaque année. L'équilibre père-mère n'est respecté que dans 20% des cas, c'est la résidence alternée. Dans 7 cas sur 10, c'est la mère qui en a la garde. À peine 1 cas sur 10 pour le père. Donc, Marie Plard, diriez-vous que la justice est misandre, hein, c'est le contraire de misogyne?
Je ne dirais pas que, effectivement, la justice soit sexiste. La justice, elle est quoi? Elle est l'instrument ou le bras du législateur, et elle ne fait qu'appliquer les lois qui sont mises à sa portée. Alors ensuite, derrière la justice, il y a des juges, et que le juge qui aujourd'hui est un juge unique, le juge aux affaires familiales, n'est pas un tribunal. Il faut savoir que ils sont seuls face à des dossiers, des montagnes de dossiers bien souvent, et que on ne peut pas évidemment exclure que certains y mettent de leur histoire personnelle. Mais la justice n'est pas sexiste. La justice, elle est l'illustration aussi de notre société, de ce que nous avons fait, de nos rapports hommes-femmes au sein du couple, au sein de la famille.
Mais comment se fait-il qu'on en soit là? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, seul un père sur 10 a la garde de son enfant dans un cas de divorce?
Alors, je suis avocat, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas historienne.
Néanmoins, et que dit la loi alors?
Voilà, comme tout un chacun, j'ai vu ces chiffres. Je constate aussi qu'en tant qu'avocat, j'ai parfois beaucoup de mal, lorsque je suis un père, à faire admettre que celui-ci puisse être aux côtés de l'enfant et répondre à ses besoins élémentaires et à son équilibre sans le perturber, et que être avec son père à part entière, c'est quelque chose d'envisageable. C'est difficile à faire passer auprès des magistrats, et un père qui revendique ce type de garde aujourd'hui doit avant tout prouver qu'il est un bon père, qu'il sera capable d'aller à la sortie de l'école, qui sera capable d'assumer les rendez-vous chez le pédiatre, qui n'oubliera pas la sortie scolaire, le goûter, etc. Et c'est souvent, effectivement, un exercice très compliqué qui nous amène devant le juge à pouvoir revendiquer une place de père à part entière. Donc, vous parliez là de garde totale. La résidence alternée est peut-être un peu plus rentrée dans les mœurs. On a eu un épisode assez douloureux et difficile avec l'association Enfants d'abord et le livre noir de la garde alternée qui a été publié en 2006 et qui est venu contester effectivement cette possibilité et décrire une situation catastrophique pour l'enfant. Mais c'est vrai, est-ce que c'est l'image de nos mentalités, pardon, qu'aujourd'hui un père doit faire ses preuves s'il veut obtenir la garde de son enfant, ce qui n'est pas le cas pour la mère?
Carole Lapanouze, oui, de l'association SOS Les Mamans, vous souhaitiez intervenir.
Ce n'est pas le cas pour la mère. Ben pourquoi? Parce que aujourd'hui, avant la séparation parentale, les femmes prennent en charge 80% des enfants, de leur éducation, de leur gestion. Et c'est vrai que là, on ne voit pas des pères demander leur 50-50. Enfin, voilà, c'est tout à fait qu'il y a une différence de prise en charge des mères et des pères. Et de tout temps...
Attendez, si je comprends bien, ce que vous nous dites, c'est que finalement, si les pères n'ont pas la garde, c'est parce qu'ils ne la demandent pas, c'est ça?
Voilà, mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de l'INSEE. Hein. 90% dans les séparations parentales, 90% des parents choisissent de manière consensuelle la garde auprès de la maman. Voilà. Et en fait, on se retrouve avec 10% finalement de séparation conflictuelle, et c'est bien ces 10%-là qu'il va falloir gérer, mais bien mieux que ce qu'il est fait aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment analyser qu'est-ce qui se passe au niveau du couple, qu'est-ce qui a généré le conflit, parce que probablement qu'il doit y avoir des mères qui peut-être font de l'obstruction, mais enfin bon, c'est vraiment, vraiment pas une généralité. On se retrouve quand même avec beaucoup de violence dans les couples. On sait aujourd'hui qu'il y a 600 000 femmes qui subissent des violences conjugales. Quand elles arrivent en justice, on leur parle de coparentalité. C'est ingérable. ingérable. L'autorité parentale dans ces conditions, c'est ingérable. La médiation, ça sert à rien. Voilà. Donc, notre association, vraiment, va militer pour que ces 10%-là puissent être vraiment traités de manière particulière avec des professionnels qui sont des professionnels reconnus qui travaillent dans le domaine des pervers manipulateurs comme Madame Irigoyenne, de la victimologie comme Madame Salmonin, et qui forment à une meilleure grille de lecture pour savoir au final qu'est-ce qui a généré ce conflit. Et je voudrais juste quand même vous donner quand même des exemples, parce qu'on entend, on voit des pères sur des grues. Je veux dire que si des mères font ça, elles sont très très mal considérées par la justice et on leur enlèverait la garde d'office. Donc je peux que vous dire que quand on parle de justice sexiste, elle est faite, on le dit, par des femmes, à 85%, je crois, les magistrats sont des femmes dans la justice familiale. Ce sont des femmes qui font des ordonnances aussi contre des femmes. J'ai le cas, mais on en a plein, de cette maman qui, cet été, a passé un mois au Beaumet pour une non-présentation d'enfant. Elle a 27 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Des violences au moment de la grossesse. On sait que la grossesse, quand une femme est enceinte et que le partenaire devient violent, eh bien, c'est quelque chose qu'il va falloir prouver en justice. Et malgré des signalements qui sont faits pas par elle, parce qu'il faut surtout pas dire que c'est toi qui signales la maltraitance, c'est qu'on va te dire que tu aliènes ton enfant, que tu le manipules. Donc il faut vraiment que ça soit de l'extérieur, ces signalements. Eh bien, ces signalements n'ont pas été pris en compte. Et au final, la garde a été transférée au père avec une validation par la juge des affaires familiales.
Fabrice Mégias de l'association SOS Papa, vient de nous rejoindre en studio. Alors, je vous pose la question de ce débat. À votre avis, la justice en France est-elle sexiste ?
Bonsoir. Oui, bien sûr, le constat est évident. Malgré les paroles que je viens d'entendre, il ne faut pas se leurrer, il faut cesser de voir autre chose que la réalité. Pourquoi ? Aujourd'hui, 1 300 000 papas prévaient leur enfant. Alors, l'association SOS Les Mamans nous amène des témoins qui sont fort intéressants. La dernière fois, j'étais sur un plateau de télé, la maman qui s'est présentée représentant l'association SOS Les Mamans, par exemple, a dit que sa pauvre enfant de 4 ans se mettait à pleurer quand elle allait voir son papa. Manque de chance, un pédopsychiatre qui était sur le plateau lui a répondu en lui disant: mais madame, c'est à vous de faire le nécessaire. Par ailleurs, 2 jours après, je tiens à vous le signaler, le papa, donc le père de cet enfant, m'a fait un message en me disant que la maman en question, qui représentait l'association SOS Les Mamans, faisait l'objet de 4 plaintes. Alors, c'est facile de jouer les victimes, mais il y a un moment, il faut effectivement savoir où se trouvent les victimes. Aujourd'hui, 1 300 000 papas près leur enfant, 180 adhérents à l'association SOS Les Mamans. Je crois qu'il faut qu'on arrête de nous faire du testimonial pour tenter d'apitoyer les gens. Si une maman a fini au Beaumet pour une non-représentation d'enfant, il y a plein de gens qui font des délits et qui finissent dans les prisons. Aujourd'hui, les Beaumet, c'est comme les autres prisons, malheureusement. On n'est pas spécialement pour une judiciarisation à outrance. On est simplement là pour qu'effectivement, les décisions de justice soient appliquées.
Alors, il y a des hommes qui réclament le droit d'exercer leur paternité, on vient d'en parler. Il y en a d'autres, Marie Plard, qui n'en veulent pas de cette paternité. Et pourtant, c'est tout le paradoxe. La justice la leur impose. Qu'est-ce qui vous a donc poussé à écrire ce livre, Paternité imposée ? Vous dites que vous êtes allé dans une zone totalement inexplorée de votre métier d'avocat.
Alors, effectivement, je me suis confrontée à une situation dans laquelle on pourrait presque parler de sexisme. Parce que ces hommes qui ne veulent pas être pères, qui, à l'issue d'une relation qui était une relation souvent d'un soir...
Alors, 6 hommes dans votre livre.
Oui, mais j'en ai actuellement une cinquantaine qui sont à mon cabinet avec des situations comme ça. J'ai choisi ces 6 hommes-là parce qu'ils étaient emblématiques de souffrance psychologique, psychique et d'une réponse judiciaire qui me semblait être inadaptée. Mais encore une fois, et on a le même débat au sujet de cette explosion des couples autour de l'enfant lors de la séparation, la justice, elle fait avec les moyens législatifs qu'on lui donne. Or, plus j'ai travaillé sur ces dossiers, plus je me suis aperçue que ces hommes-là, face à des femmes qui, au cours de cette relation, pouvait se trouver enceinte sans aucun projet de maternité avec cet homme-là et sans aucun projet de vie, avaient de leur côté la pilule du lendemain, la possibilité d'avorter et l'avortement anonyme. L'accouchement sous X ou la naissance anonyme. Il est bien évident que l'homme, face à ces mêmes situations, mis dans ces situations de précarité, de pauvreté, de misère affective ou d'incapacité d'assumer l'enfant, n'avait qu'une seule réponse judiciaire sociale, c'était « assume ». Et en plus de devoir assumer souvent des choses extrêmement douloureuses, il recevait dans les prétoires et dans les audiences, souvent, bien souvent, des leçons de morale. Et étaient traités dans leur environnement comme des salauds, de telle sorte que souvent j'étais la seule avec laquelle il pouvait s'exprimer.
Philippe Viau, de l'association Les Malgré Nous, racontez-nous concrètement votre expérience, votre cas, oui.
Tout à fait. Alors déjà, la première victime d'une paternité imposée, c'est l'enfant. Mais bon, on peut élargir le débat, bien sûr, au problème donc des gardes d'enfants et tout ça. Moi, je suis en accord parfait avec Marie Plard, dans le sens où les juges jugent avec les outils législatifs dont ils disposent. Les femmes ont su faire valoir leurs droits, les hommes devraient en faire autant. Et ils seraient bien inspirés de faire comme ont fait les femmes, et bien de faire changer les mentalités, de faire changer les lois, au lieu de monter sur des grues, de se plaindre. Il est vrai que les situations sont difficiles. Moi, j'ai vu SOS Papa, ils font un travail formidable. Mais ce qui est dommage, c'est que là, on vient de le voir juste dans votre émission, SOS Papa et l'association pour les mamans sont un petit peu en opposition, pas en agressivité, mais un petit peu... Au lieu de faire un travail tous ensemble pour le bien de l'enfant, parce que qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche qu'un enfant, évidemment. Alors, il y a des cas dramatiques. Hein. Les cas dramatiques que défend SOS Papa, ils défendent des cas incroyables. Hein, des gens qui sont RMI en prison parce qu'ils n'ont pas payé les pensions alimentaires. Mais effectivement, comme disait la présidente de l'association pour les mamans, ça concerne très peu de monde. C'est une réalité. Ça concerne un petit million de papas. C'est peu de monde. Hein. On est dans les 90-10%. Mais pourquoi ne pas s'entendre ? Pourquoi ne pas essayer de travailler ensemble ? Moi, ce que je porte, c'est les paternités imposées. C'est complètement différent. Ce sont des choses qui sont... Mais je pense que c'est à nous de faire changer la loi. Moi, je suis maire de mon village. On prépare des projets de loi. On est prêts, nous, à faire adopter des projets de loi. Pour que... Ça, c'est une simple formalité. Mais ça ne pourra se faire que quand les mentalités auront changé. Et c'est pas demain qu'elles vont changer les mentalités. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sensibilisés au problème des paternités imposées, et Marie Plard le sait bien, que ceux qui y sont confrontés. Les gens arrivent chez nous, ils sont anéantis par des assignations en justice, où ils réalisent qu'ils ont été pris dans un piège pour le reste de leur vie, et même après. Et même après, parce qu'ils vont avoir des droits sur leurs biens. Donc on est dans des situations catastrophiques. Il suffirait de légiférer, hein, pour légiférer pour ça.
C'est ce que vous racontez, Marie Plard, dans votre livre. Vous citez le cas de ces hommes à qui l'on dit 12 ans après, eh bien voilà, vous êtes papa, et vous devez 12 ans de pension alimentaire. Carole Lapanouze, SOS Les Mamans, est-ce que vous comprenez, oui, est-ce que vous comprenez le message que vient de nous adresser à l'instant Philippe Viau?
Alors, deux choses. En France, il y a 15 000 audiences pour abandon de famille par an, pour une centaine de milliers de plaintes. Voilà. Le temps moyen pour une procédure, pour qu'elle aboutisse, c'est 37 mois. Et le montant médian d'une pension alimentaire, une CE, comme on dit, est d'environ 200 euros par mois. Voilà. Ça, c'est déjà pour les pensions alimentaires. Il y a un défaut, effectivement, de devoir de certains. Voilà. 40% qui ne sont pas payés. Ça, c'est
rapidement, très rapidement, il nous reste moins d'une minute.
Et pour cette histoire de paternité à la carte, je rappelle que d'une manière ou d'une autre, ce sont les femmes qui vont devoir assumer soit leur grossesse, même si elles n'ont pas voulu, et on parle beaucoup évidemment des relations peut-être ponctuelles, mais aussi des viols, mais aussi des femmes qui vont devoir assumer leur avortement, qui dans les deux cas pour les hommes n'existe pas. Donc je pense que les paternités à la carte, c'est pas possible, dans le sens où on nous a dit, enfin on a entendu dire que les femmes ne voulaient pas du lien père-enfant, qu'elles le brisaient, qu'elles étaient castratrices, que des hommes allaient en pays étranger faire justement des tests de paternité, et d'un autre côté on nous dit que quand il y a un test de paternité, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent pas être responsables de leur paternité. Ça fait un peu beaucoup dans la carte, non?
Marie Plard, 10 secondes.
Oui, il y aurait des solutions simples pour réconcilier les pères et les mères et accéder, par exemple, au dossier médical de l'enfant, savoir où l'enfant que l'on a conçu avec une femme va naître, avoir l'état de santé de celui-ci. Ce sont des choses très simples.
Voilà, et je vous renvoie à votre livre « Paternité imposée » aux éditions Les Liens qui libèrent. RFI Soir continue.